Théologie naturelle, Père Philippe, 16 décembre 1983, Saint-Jeudin.
Peut-on dire que si en Dieu l'essence n'était pas la même chose que l'essai, alors Dieu serait contingent? Vous savez que le mot contingent est très difficile à savoir exactement. Il ne serait plus un être nécessaire. Voilà ce que je dirais. Parce qu'il y a en lui une possibilité. La distinction entre essence et existence, hein, là on touche, vous savez, ça fait partie de ce qu'on dit une des grandes thèses mystes. Enfin, les 24 thèses mystes, hein, faut pas les oublier. Regardez le père Grenet, 24 thèses mystes. J'aime pas beaucoup, je vous le dis tout de suite, parce que je me souviens qu'à Reims, on m'avait dit « Ah, foncez-y, 24 », je dis « Je veux bien », mais alors je ferai la critique des 24 thèses mystes, depuis le début jusqu'à la fin. Alors c'est ce que j'ai pris le livre du père Grenet, puis j'en ai fait toujours la critique en montrant que ça ne on savait plus si on était en philosophie, si on était en théologie, si on était... Bon, je veux bien, ça existait, les 24 thèses. Il faut le savoir, ça fait partie de choses qu'on doit savoir, les 24 thèses. Alors, parmi ces 24 thèses, oui, c'est pour le résumer, on a toujours besoin de ramener. Alors, on ramène à 24 thèses, je veux bien. Mais il ne faut surtout pas se former par là, parce que ça déforme tout. Les gens qui sont formés par les 24 thèses, ils n'en sortiront jamais, et on ne pourra plus jamais rien faire d'eux. Parce qu'ils ramènent tout à 24 thèses. Comme si, au fond, saint Thomas se ramenait à 24 thèses. Alors, je vous allez tout de suite voir. La fameuse thèse Thomas, c'est ceci. Dans tout être créé, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Je dis bien. En tout être créé, c'est comme ça que les thomistes du XVIe et XVIIe siècle, puisque c'est à ce moment-là que ça s'est formé, c'est de cette manière-là. En tout être créé, distinction réelle de essence et essai. En tout être créé. Si je prends tout être créé, je suis donc dans un jugement de sagesse. Pourquoi? Parce que quand je vous vois, je ne vous dis pas « Oh, quelle belle créature !» Je ne dis pas ça en premier lieu. Je dis « Vous existez. » Je peux évidemment vous regarder dans un regard de sagesse. Je sais ce que c'est dans un regard de sagesse. Ou il est de foi, ou il est philosophique. Si le philosophe est arrivé à découvrir l'existence d'un être premier qui est le créateur, à partir du créateur, je dénomme tout ce qui n'est pas créateur, créature. C'est très simple. À partir du créateur, je dénomme tout ce qui n'est pas créateur, créature. Vous n'êtes pas créateur, vous n'êtes pas le créateur, vous êtes donc une créature. Il n'y a rien entre deux. Il n'y a pas une zone franche, vous voyez, ce serait tellement extraordinaire pour certains philosophes. Ce serait une zone neutre, ni créateur, ni créature. Mais ça n'existe pas. Il y a ou l'être premier, qui, lui, dont tout le reste dépend, donc qui est le créateur, et toutes les autres réalités sont des êtres créés. En tout être créé, donc jugement de sagesse, dans la lumière de la création. Dans la lumière de la création, dans la lumière du créateur. Je peux dire, en tout être créé, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Ce qui est terrible, c'est que cette thèse, hein, si j'ose dire, c'est pas une thèse d'abord, hein, en premier lieu, une thèse, c'est pas une conclusion. Si vous voulez, on peut dire, c'est une conclusion de sagesse, tout simplement. C'est une conclusion de sagesse, mais c'est pas une thèse, parce que à partir de là, je peux rien conclure. C'est une conclusion. À partir d'une conclusion, on peut rien conclure. C'est pas une thèse qui illumine le reste. Qu'est-ce qui illumine tout? C'est l'être créé. Et puis la créature est éclairée, et je vois que dans la créature, il y a nécessairement une distinction entre essence et existence. Ce qui est terrible, c'est qu'on a oublié que c'est un jugement de sagesse. On l'a donné comme quelque chose d'immédiat. En tout dès de regret, dit Saint-Jean, comme si de fait, en regardant n'importe quelle réalité que je peux expérimenter, je prends mon scalpel métaphysique, je coupe en deux cet être, essence et c'est. Alors, où est-ce qu'elle est ? Coupez-vous en deux, essence et c'est. Où est votre essence ? Où est votre existence ? Tout ce que vous êtes existe. Tout ce que vous êtes est votre essence. Votre essence. Attention, il y a des petits accidents qui viennent s'ajouter, mais c'est pas, il y a des choses secondaires, c'est pas votre essence. Mais tout ce que vous êtes existe. Et vous ne pouvez pas expérimenter la distinction d'essence et existence. Vous ne pouvez pas. Pourquoi ? Parce que l'essence, c'est la capacité d'exister. Donc, c'est l'être en puissance au niveau de la vie. L'être en puissance ne se connaît qu'à partir de l'être en acte. Donc je ne le connais pas directement. Quand vous tâtez le pouls, vous ne tâtez pas votre pouls de votre essence. Hein, non, vous existez, vous êtes des êtres qui existent, et puis c'est tout. Vous existez avec plus ou moins d'intelligence, avec plus ou moins de cœur, avec plus ou moins de poids, avec plus ou moins de légèreté, et ainsi de suite. Vous existez. Bon. Et dans votre existence, vous essayez petit à petit de découvrir qu'il y a fondamentalement en vous une capacité d'exister, parce que vous n'êtes pas simple. Vous n'êtes pas simple. Il y a en vous de multiples déterminations. Alors, parce qu'il n'y a pas en vous, alors vous distinguez les deux. Vous distinguez votre capacité d'exister et votre acte d'être. Puisque essence, c'est l'acte d'être. Et l'essence, capacité. Alors, c'est une distinction qu'on fait dans la lumière de la métaphysique de l'acte et de la puissance. Dans la lumière de la métaphysique, ici c'est être en acte. Oui, être en acte. L'acte d'être. C'est l'être en acte. Ici c'est l'être en puissance. Donc c'est la distinction qu'on fait au niveau métaphysique de l'être en puissance et de l'être en acte. Et puis je peux, dans un jugement de sagesse, exprimer, c'est très juste, en tout être créé, il y a une distinction réelle d'essence et d'existence. Mais voyez, ce que je n'aime pas dans le thomisme habituel, c'est qu'on confond ce qui est de l'ordre de l'analyse et ce qui est de l'ordre du jugement de sagesse. Si vous confondez ce qui est de l'ordre de l'analyse, c'est-à-dire ce que vous pouvez expérimenter directement et analyser, et ce qui est de l'ordre du jugement de sagesse, si vous confondez les deux, vous êtes dans une position qu'on a appelée l'ontologisme. Et c'est pour ça que tellement de thomistes sont dans l'ontologisme. Et à partir de là, ils ne peuvent plus rien du tout. L'intelligence est arrêtée, c'est tout. Je reste avec des thèses. Et c'est très important, vous voyez, parce que, au fond, le thomisme est connu à l'extérieur, en Sorbonne, par les 24 thèses. Ça qui est terrible, c'est plus une manière de penser, vous voyez. Ce sont des conclusions, c'est tout. C'est plus une manière de penser, c'est plus le point de vue philosophique qui cherche. Il n'y a plus de recherche, il y a des thèses qu'on doit défendre. C'est comme si la philosophie c'était des thèses qu'on défendait. Non, la philosophie c'est une recherche sur l'homme. Et une recherche sur l'homme pour aller toujours plus loin, pour essayer de comprendre ce que c'est que l'homme et découvrir que l'homme a ceci de tout à fait particulier, que si je l'étudie vraiment lui-même, il demande d'aller plus loin que lui-même. C'est quand même très cru, ça. C'est-à-dire qu'il découvre progressivement qu'il y a en lui des limites, et ces limites, il est capable de les dépasser par le point de vue de l'intelligence et par le point de vue de la volonté, pour découvrir qu'il y a quelque chose de premier, de plus fondamental en lui. Bon, ça c'est simplement pour vous rappeler, hein, quand saint Thomas nous dit en Dieu distinction de l'essence et de l'essai, c'est pour vous montrer que en Dieu il est tout à fait simple, omnino simplex, la contemplation de l'être de Dieu absolument simple, et parce que je contemple qu'en Dieu il est tout à fait simple, je peux dire immédiatement en toute créature tout ce qui n'est pas Dieu et créature, article 1er. Tout ce qui n'est pas Dieu implique une dépendance radicale entre son essence et son exister. Il faut petit à petit, hein, comprenez, ça c'était évident, ça n'a pas d'importance. On sait qu'on est ici dans la somme théologique de saint Thomas. On voit très bien qu'on est dans la somme théologique. Donc on est dans une perspective de théologien. Cette perspective de théologien présuppose une connaissance philosophique et présuppose toute la métaphysique de l'être en acte et de l'être en puissance, que nous verrons. Nous n'y sommes pas encore maintenant. Et alors, c'est évident, vous allez me dire, c'est une pierre d'attente. Oui, c'est une pierre d'attente. C'est très beau de voir les pierres d'attente parce que ça vous donne un peu plus de désir de creuser. Et quand vous faites un peu de théologie, c'est ça l'avantage de faire un peu de théologie. C'est pour ça qu'il faut faire un peu de théologie en philosophie. Dès qu'on fait un peu de théologie en philosophie, on a une avidité de faire de la philosophie. Parce qu'on voit que c'est impossible de faire de la théologie si on n'est pas un peu philosophe. C'est impossible. C'est absolument impossible, parce qu'on n'arrivera pas, du reste, à discerner ce qui est une bonne théologie et une mauvaise théologie. On ne peut pas allier à la foi, lier à la foi, ce qui est erroné. Or, s'il n'y en a pas une certaine philosophie qui est vraiment en recherche, on va allier à la foi des erreurs. Et allier à la foi des erreurs, c'est au bout d'un certain temps, être dans la confusion. Oui, c'est pour ça que c'est bon, hein. C'est bon de faire un peu de théologie et exprès, la grande question sur la simplicité, elle est très belle, elle est très grande. Pas de questions ? Oui ?
Qu'est-ce que le regard de sagesse apporte au regard
métaphysique ? Qu'est-ce qu'il regarde ? Il apporte une précision d'une distinction réelle. La distinction métaphysique entre être en puissance et être en acte, c'est très juste. Je dirais toutes les réalités, comment je m'exposerais pour la thèse si j'avais la corriger. Donc, qu'est-ce que je dirais? Dans toutes les réalités que j'expérimente, dans l'homme que j'expérimente, puisque c'est l'homme, je distingue en lui sa nature et son acte d'exister. Je distingue en lui son essence, sa capacité d'être. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas une unité absolue au niveau. Il y a une division entre être en acte et être en puissance. Qu'est-ce qui, ici, dans le jugement de sagesse, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est que je le fais dans la lumière de la sagesse de Dieu. Oui, alors comme je le fais dans la lumière de la créature, je vais plus loin dans la distinction. Je creuse plus à fond. Et je vois que dans tout être créé, là je peux dire en tout être créé, là je n'ai pas dit en tout être. Si je dis en tout être, ce serait faux. Puisque justement l'être premier n'implique pas cette dimension. C'est pour ça qu'au point de vue métaphysique, je suis beaucoup plus, j'allais dire, ce n'est pas une thèse, c'est une recherche. Toutes les réalités que j'expérimente, l'homme que j'expérimente, en lui, il y a une distinction entre nature et essence. C'est tout. Je ne dirais pas plus. Dans la fameuse discussion qui est entre Suarezien et Thomas. La distinction entre essence et existence est-elle une distinction réelle? Une dispute pendant 100 ans, on s'est battu là-dessus. Et ça continue encore. Certains continuent. Ceux qui sont encore dans la scolastique continuent de faire ça. Distinction. Les Suarésiens disent pas de distinction réelle entre essence. Et c'est tout simplement que, attention, Suarez, il veut faire de la philosophie. Il a fait mal, mais de temps en temps, il a fait bien. Bon, alors, il veut faire de la philosophie. Alors, quand il dit. Pas de distinction réelle, c'est parce qu'il est à ce niveau de la métaphysique. À ce niveau de la métaphysique, je ne me pose pas la question si c'est une distinction réelle ou pas de distinction. C'est une distinction d'intelligence. C'est l'intelligence qui distingue entre l'être en acte et l'être en puissance. Parce que l'intelligence sait que la réalité qui existe est une. Je n'ai pas en moi. Hein. En moi, est-ce qu'il y a une distinction réelle en moi entre essence et existence? Vous voyez que le problème devient complètement idiot. C'est mon intelligence qui distingue ça. Tandis que là, je peux dire distinction réelle parce que je dis en tout être créé, dans la lumière du Créateur, je peux le dire. Parce que je suis actuellement dépendant du Créateur. Je n'ai pas de possession d'avoir sur mon essai. Je suis dépendant dans mon essai du Créateur. Donc je peux dire dans toute créature comme créature, il y a une distinction réelle. Mais lorsqu'il s'agit au point de vue métaphysique, ça n'aurait pas de sens. Ce serait très équivoque.
Et tu as dit, ah moi, une distinction réelle entre sens et distance. Pourquoi dites-vous une distinction réelle? C'est votre intelligence qui analyse. Quand vous analysez, c'est votre intelligence qui analyse. Tandis que une distinction réelle risque toujours de nous conduire vers l'essai. Comme si je pouvais séparer, c'est la fameuse chose, la distinction entre l'âme et le corps. C'est évident qu'il y a une distinction réelle entre l'âme et le corps, mais c'est une distinction au niveau des principes. C'est pas la peine de dire distinction réelle, parce qu'il y a l'unité. Et alors c'est toutes ces questions-là qui ont fait des équivoques terribles. Alors on a dit, on reste dans le dualisme. Mais non, c'est pas le dualisme. L'analyse ne conduit pas au dualisme. L'analyse consiste simplement d'analyser. On sépare, on distingue être en acte et être en puissance. Alors vous pouvez, au point de vue critique, dire, est-ce que la distinction d'être en acte et d'être en puissance est une distinction réelle? Mais c'est évident que c'est une distinction de l'intelligence. Si elle n'est pas réelle, c'est possible. C'est l'intelligence qui résonne. Alors vous tombez dans toutes ces distinctions, mais l'intelligence résonnante qui distingue, c'est absolument une distinction. Est-ce qu'entre homme et humanité, il y a une distinction réelle? Est-ce qu'entre homme et humanité, il y a une distinction de raison résonante? Ça vous avance? Ça n'avance absolument pas quand je dis ça, de raison résonante. Je dis tout simplement, cette distinction entre homme et humanité, je sais très bien où elle se situe, c'est une distinction entre concret et abstrait. La distinction entre concret et abstrait n'est pas la même que la distinction entre être en acte et être en puissance. Je dirais chaque fois que mon intelligence distingue, et chaque fois c'est différent. C'est pour ça que je dois savoir toujours à partir de quoi je distingue. Mais je ne mets pas de qualification, je distingue tout simplement l'être en acte et l'être en puissance. Tandis que lorsque je suis dans un jugement de sagesse, je peux dire en tout être créé, il y a une distinction réelle. Vous voyez? Parce que je suis en face de l'ipsum esse subsistens. Je suis dans la lumière de Dieu, du Créateur. C'est là la différence entre les deux. Là, c'est le fruit d'une analyse. Là, c'est un jugement de sagesse. Et le fruit d'une analyse n'est pas la même chose qu'un jugement de sagesse. Dieu, l'existence de Dieu n'est pas présente pour éclairer ma distinction d'être en acte et en puissance. Si je comprends la distinction d'être en acte et en puissance, c'est tout simplement, j'ai analysé. C'est celui qui dirait, quand je divise le poulet, ou je prends le sécateur, ou je divise, dialectique et la distinction idéologique, n'est-ce pas? Bon, si je divise bien mon poulet, est-ce que Dieu est présent de cette division? Mais non. Je regarde une réalité que je distingue, tout simplement. Bien, c'est la même chose au point de vue métaphysique. Cette distinction, elle est fondamentale, elle est beaucoup plus importante, parce que c'est elle qui va me permettre de remonter jusqu'à Dieu. Donc c'est très important, mais Dieu n'est pas présent. Si Dieu était présent, je ne pourrais plus dire que c'est elle qui me permet de remonter jusqu'à Dieu. Tandis qu'ici, Dieu est explicitement, le Créateur est explicitement dit, dans la lumière du Créateur, tout être créé implique une distinction entre essence et essence. Est-ce que vous voyez un peu ça, hein? Faut entrevoir. Hein? Entrevoir pour comprendre que l'intelligence doit toujours savoir, quand elle fait distinction, à quel niveau elle est. Et ne jamais transposer une distinction d'un niveau à un autre niveau. Parce que quand on fait ça, on confond tout. La distinction, c'est l'intelligence qui divise. Et l'intelligence a besoin de diviser pour aller plus loin, pour mieux comprendre. Alors elle doit savoir à quel niveau elle se trouve. Très bien. Je reprends, parce que cet article 4 est important. On l'avait terminé? Non, je ne crois pas. Alors je le reprends, parce que il est très capital, vous comprenez, parce que c'est une thèse mystique, hein, c'est quand même très important. Et le père Garrigou-Lagrange l'aimait d'une façon très particulière. Il disait que c'est le sommet de toute la théologie. Alors, c'est le sommet de toute la théologie, donc cette conclusion, je ne suis pas non plus d'accord avec ça, mais je vois qu'il y a quelque chose de grand. C'est très vrai, il y a quelque chose de très grand. Métaphysiquement, cet article 4 montre la fêlure la plus fondamentale de tout être créé. Et je prends fêlure au sens de Kierkegaard. Hein. Kierkegaard dit, vous êtes tous effêlés. Hein. Métaphysiquement parlant. Et alors, de temps en temps, la fêlure métaphysique devient périphérique et devient des fêlures psychologiques. Mais il n'y aurait pas de fêlure psychologique s'il n'y avait pas de fêlure métaphysique. Hein. C'est bien évident. Il y a en nous quelque chose qui s'est... C'est pas drôle, hein, de regarder le point de vue de la créature qui est fêlée. Elle est fêlée, fondamentalement. C'est ce que saint Thomas dit, le vertige de la créature. J'aime bien ça, le vertibile ad nihilum. La créature, dès qu'elle prend conscience qu'elle est créature, elle a un vertige. Parce que elle ne possède pas son acte d'être. Dans la créature, ce que diront tous les mystiques, et Catherine de Sienne le dira, dans la créature, le néant est avant l'être. C'est pas drôle, hein, de découvrir le néant avant l'être. Vous voyez ce que dira ensuite Kierkegaard. Elle arrive à laïciser une attitude mystique. Au point de vue mystique, c'est très juste de dire que dans toute créature, donc en chacun d'entre nous, le néant est avant l'être. Donc quand je conçois ça, mais j'ai le vertige. Comment éviter ce vertige métaphysique? Reconnaître que je suis dans les mains du Créateur. Ah, il n'y a plus de vertige. Mais s'il n'y a pas le Créateur, alors c'est terrible. Parce que je ne possède pas mon être. Je suis dans un état de dépendance à l'égard de mon être. C'est pas drôle, ça. Alors, je comprends très bien le vertibile de saint Thomas. C'est très beau comme expression, le vertibile ad nihilum. La créature a le vertige du néant. C'est ce qu'on va appeler dans un texte, un contexte moderne, l'angoisse métaphysique, hein. Là, il y a une angoisse métaphysique. Mais en réalité, il n'y a pas d'angoisse. Hein, parce que je dis le vertige vers le néant, je le dis parce que je suis dans une lumière de sagesse. Mais si je coupe subitement cette lumière de sagesse, imaginativement, si je coupe subitement cette lumière de sagesse et que je ne regarde que l'être créé, alors je dirais oui, cet être créé, c'est très vrai. Parce qu'en lui, il y a une distinction réelle d'essence et d'existence. Il faut bien la coller. Qu'est-ce qu'il va coller ça? Puisque je vois la distinction entre les deux, d'où le vertige vers le néant, le non-être. Le non-être présent dans la capacité d'exister, puisque c'est une potentialité, il y a donc du non-être. Alors cette capacité, alors je ne vois plus que le non-être, et j'ai le vertige. Vertige métaphysique. Hein. C'est pas drôle, le vertige métaphysique. Eh bien ce vertige métaphysique n'existe pas quand je me regarde dans la lumière du Créateur, parce que je suis porté par lui. Si j'existe, c'est parce que Dieu m'a créé, et parce que Dieu m'a créé, quand Dieu crée quelque chose, il me soutient dans l'être. Donc, la colle divine ici. C'est pas une colle de fer, c'est une colle divine qui colle l'essence et l'existence. Hein, vous voyez ça? Et alors c'est l'acte, laisser actu l'essence, l'actu d'une manière telle qu'il y a l'unité. Mais en même temps, c'est très vrai, il y a cette fêlure métaphysique. J'aime bien l'expression fêlure métaphysique, ça dit bien, cette fêlure métaphysique est la limite fondamentale qui existe en moi. Cette limite fondamentale. Et quand je ne regarde que ça, je suis un être fêlé. Mais on voit très bien Nietzsche qui dit le fou qui se jette sur la place avec une lanterne à la main, il se dit où est Dieu, où est Dieu, il est fou, il est fêlé. et c'est vrai, c'est parce qu'il sent très bien qu'il y a en lui cette espèce de limite au niveau de son être. Et là, parce qu'il y a cette limite au niveau de son être, mais oui, il cherche où il va pouvoir reposer son être. Cherchez pas trop ça avant de vous endormir. Hein. Parce que alors, il y a des chances que vous ne dormiez pas et que vous restiez dans la fêlure métaphysique toute la nuit. N'est-ce pas? Non, c'est pas drôle, la fêlure métaphysique, quand on ne se repose pas sur le Créateur. Et quand j'en ai pas l'expérience métaphysique, vous voyez, c'est ça qui est difficile. On comprend très bien comment il peut y avoir une folie métaphysique. Si je ne la fais pas dans la lumière du Créateur. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui permet à la créature de dormir en paix? C'est l'adoration. c'est l'adoration. C'est la seule réponse à la filière métaphysique. Je me remets dans les mains du Créateur. Et philosophiquement, je peux le dire. Philosophiquement, je peux dire que le grand remède à l'angoisse métaphysique, il n'y a qu'un seul remède, c'est l'adoration. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que notre monde d'aujourd'hui, au point de vue métaphysique, a tellement besoin de cela. Et le monde ne veut pas ça. Parce que adorer, c'est reconnaître le Créateur. Si vous ne voulez pas reconnaître le Créateur, vous restez des êtres fêlés. C'est terrible, hein. Mais c'est très vrai parce que c'est un fait. En toute créature, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Ça, c'est évident, c'est une réalité. Et alors, si la créature ne reconnaît pas le Créateur, c'est-à-dire elle veut rester uniquement autonome en elle-même, elle n'a pas d'autonomie. Je n'ai pas d'autonomie fondamentale dans mon acte d'être. La preuve, c'est que je ne peux pas augmenter mon acte d'être. Mon acte d'être, j'existe, je suis. Ouais. Je me regarde. J'essaie de comprendre ce que je suis. Et alors, je m'aperçois à ce moment-là qu'il y a en moi une indétermination fondamentale, mon essence, ma capacité d'être. Alors, je prends cet article 4 de saint Thomas. En Dieu, l'essence est-elle la même chose que l'existence ? Alors, en effet, il ne suffit pas de dire que Dieu est identique à son essence, comme nous l'avons montré. Il faut ajouter qu'il est identique à son acte d'être, ce qui peut se prouver de maintes manières. Donc, ce qui peut être démontré, ce qui peut être montré de plusieurs manières. Multiplicitaire. Tout d'abord, donc saint Thomas sait très bien qu'il va résumer ici deux manières. Tout d'abord, ce qui se constate dans un être en dehors de son essence, là, je peux être dans l'analyse, hein, ce qui se constate dans un être en dehors de son essence a besoin qu'on lui assigne une cause. J'existe et mon existence n'est pas ma nature. C'est évident. Parce qu'à côté de vous, vous avez quelqu'un qui a la même nature que vous. Il existe aussi et vous existez. Et vous existez indépendamment de lui. Si vous dites « Ah non, c'est à cause de moi que tu existes », je ne dis pas du tout. Tu pourrais très bien disparaître, hein, et moi je continuerai d'exister. Tu n'as pas un dominium sur mon existence, pas du tout. Donc c'est très vrai, je peux constater ça tout d'abord. Tout d'abord, ce qui se constate dans un être en dehors de son essence, a besoin qu'on lui assigne une cause, soit intérieure, soit étrangère. Il peut résulter des principes même de l'essence, comme les propres attributs de l'espèce. Ainsi, le rire appartient à l'homme en raison des principes essentiels de son espèce, ou bien il vient de l'extérieur, comme la chaleur de l'eau est causé par le feu. Si donc l'essai, c'est toujours très difficile dans les traductions, il faut toujours avoir lieu, quand on met l'être, bien voir si le texte latin porte l'essai. Et si vous avez l'essai, mettez plutôt, entre parenthèses, l'acte d'être. C'est plus juste, c'est plus précis que traduire l'être. L'être, c'est matériel comme expression, parce que essai, c'est l'infinitif. Donc c'est matériel, donc il vaut mieux traduire l'acte d'être. Si donc l'acte d'être même d'une chose diffère de son essence, vous voyez, diffère, il ne dit pas distinct réellement, une distinction tout simplement, l'être de cette chose est causé nécessairement par un agent extérieur ou par les principes essentiels de cette chose. Alors voyez bien, par rapport à vous-même, hein, tâtez-vous le pouls métaphysiquement, n'est-ce pas ? Bon, je vois qu'en moi, mon essence, c'est-à-dire ma nature, n'est pas la même chose que mon acte d'être. Vous pouvez tous comprendre ça. Et c'est très simple, parce que si c'était identique, votre acte d'être et votre nature, vous seriez unique. Vous avez une nature humaine, et attendez-vous, qu'est-ce qui vous permet de dire que votre voisin, il n'a pas la même nature que vous ? même nature que vous. Vous l'avez bien vu. La preuve, c'est que vous pouvez coopérer avec lui, vous pouvez lui parler. Donc il a la même nature que vous. Si votre voisin a la même nature que vous et qu'il n'a pas le même acte d'être, il n'a pas le même acte d'être, à moins que vous fassiez une petite crise dangereuse en disant quoi, et mon voisin, nous sommes identiques. Identiques. Vous pourrez dire, mais votre voisin est dans l'inverse. À moins que ta crise de folie va ensemble, alors à ce moment-là, il est identique avec moi. Nous sommes tous les deux identiques. Vous savez bien, nous sommes identiques dans l'être. Pas du tout identiques. La pensée, tu peux faire des choix, moi je peux faire d'autres choix, on n'est pas identique du tout dans l'être. On a un être différent, un essai différent. Et notre nature est la même. Donc, ce qui montre bien la différence. Alors, je reviens. Vous-même, votre essai, d'où vient-il ? Vous voyez la question, d'où vient votre essai ? Ce qui n'est pas, il n'est pas identique à votre nature. D'où ça vient ? Ah, pourriez-vous me poser la question, d'où vient votre nature aussi, hein ? D'où ça vient votre nature ? Ah, mais parce que j'ai été engendré par des parents comme ça et ainsi de suite. Bon, très bien. Mais votre essai, d'où ça vient ? Est-ce que ça a été créé par votre nature ? Ou est-ce que ça vient d'un autre ? Ça vient de l'extérieur. Ça ne peut pas venir de votre nature. Puisqu'alors, si ça venait de votre nature et votre voisin, il a la même nature, donc vous avez le même essai. Il n'a pas le même essai. Il n'existe pas de la même manière. Alors ça, c'est la grosse question, vous voyez. Alors quand saint Thomas nous dit ça, et ça c'est très intéressant, quand il nous dit ça, ainsi, le rire appartient à l'homme en raison des principes essentiels de son espèce. Quand vous souriez, vous dévoilez votre nature. Ça ne veut pas dire ne souriez jamais. Non. Quand vous souriez, vous dévoilez votre nature. C'est si merveilleux. Le sourire d'un enfant, il dévoile sa nature. C'est extraordinaire. Même s'il ne dit rien, il dévoile sa nature. On voit que c'est un petit être humain. Il sourit. Tandis qu'un saint, avec le sourire, non, vous n'arriverez pas. Si vous êtes en face de lui et que vous souriez, il croit que vous vous moquez de lui. Il deviendra méchant. Tandis qu'un enfant, si vous souriez, il comprend que vous souriez, il répondra. Ça vient de sa nature, ça. Le rire, le sourire, n'est-ce pas, appartient à l'homme en raison des principes essentiels de son espèce. De sorte que quelqu'un qui ne sourit jamais, ça devient inquiétant. Ça devient inquiétant. On se dit, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a avalé ? Une baleine. Alors il est complètement réduit à l'état animal. Il n'a plus rien du tout. Ou bien il vient de l'extérieur, donc ou ça vient des principes propres de la nature, ou bien ça vient de l'extérieur. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, si l'essai, par mode d'hypothèse, si l'essai même d'une chose diffère de son essence, l'essai, l'acte d'être de cette chose, est causé nécessairement soit par un agent extérieur, soit par les principes essentiels de cette chose. Ça peut être autre chose, j'applique. Mais il est impossible, lorsqu'il s'agit de l'acte d'être, qu'on le dise causé par les seuls principes essentiels de la chose. Car rien ne suffit à se donner l'être dès là qu'il doit le recevoir. Pourquoi ? L'acte d'être, c'est la raison. La nature, c'est la capacité. Jamais l'acte provient de la puissance. Saint Thomas fait appel ici à quelque chose, évidemment, qu'au point de vue métaphysique, on doit connaître. Vous ne pouvez jamais expliquer un acte d'être à partir d'un état potentiel. De la puissance, vous ne pouvez pas sortir là. Jamais. De la puissance, il ne faut pas sortir l'acte. Pourquoi ? Parce que l'acte a une valeur d'être plus grande que l'être en puissance. Et donc, vous ne pouvez pas expliquer l'acte par la puissance. Impossible. Donc, on doit dire que la nature ne peut pas... La nature humaine, ma nature, ne peut pas expliquer mon acte d'être. Mon acte d'être provient donc nécessairement de l'extérieur. Et ça ne peut pas provenir de mes parents. Mes parents aussi sont à l'extérieur. Ma nature humaine provient d'où? Agens, agit, simile, sibi. Bon, c'est évident. Ma nature humaine provient d'une autre nature humaine. Elle existe avant moi. C'était mes parents. Ils existent avant moi. Donc ils m'ont communiqué ma nature humaine. C'est vrai, ils m'ont communiqué ma nature humaine. Est-ce qu'ils m'ont communiqué mon être? Est-ce qu'ils m'ont communiqué mon être? Alors, vous voyez la question, saint Thomas ne traite pas ici. Il faut que je pose la question. Est-ce qu'ils m'ont communiqué mon être? Alors là, je vous dirai tout de suite, attention, ils n'ont pas communiqué mon être. Pourquoi? Parce que votre être, il provient de votre âme spirituelle qui est créée par Dieu. Et votre âme spirituelle elle-même, si je l'analyse, puisqu'elle est, elle est créée par Dieu, votre âme spirituelle, elle a sa détermination propre qui n'est pas son essai. Mais il est impossible, lorsqu'il s'agit de l'être en acte, qu'on le dise causé par les seuls principes essentiels de la chose. Car rien ne suffit à se donner l'être en acte dès lors qu'il doit le recevoir. Il reste donc ce qui fait voir distinct son être et son essence, reçoit son acte d'être d'un autre. Donc il doit le recevoir d'un autre. Or, voilà le raisonnement, or, cela ne peut se dire de Dieu. Et je ne veux pas à partir de là prouver que l'existence de Dieu, hein. Je pourrais d'une certaine manière, hein, vous voyez, c'est quasi une preuve de montrer que Dieu existe. Puisque mon essai, mon acte d'être, il vient nécessairement d'un être qui est premier, transcendant, absolu. Mais on ne prend pas ça pour les voies d'existence de Dieu, vous voyez. Mais c'est intéressant à poser, parce qu'au fond, c'est quand même quelque chose. Et même, je dirais, apologétiquement, c'est cette plus forte. Vous faites comprendre à quelqu'un le vertige métaphysique. Pas se bouger trop. Mais vous pouvez. Vous pouvez très bien. Aujourd'hui, surtout dans le climat d'aujourd'hui. Votre être, il ne vous appartient pas. La preuve, c'est que vous pouvez mourir d'un moment à l'autre. Si vous m'appartenez, vous ne mourriez que quand vous voudriez mourir. Moi, j'ai décrété de mourir à tel âge, je mourrai à tel âge. Je pouvais s'affirmer. J'ai décrété de mourir à tel moment, ça m'appartient. Mais non, ça ne vous appartient pas. Ça, vous êtes bien obligé de le reconnaître. Ça ne vous appartient pas. Votre existence ne vous appartient pas. Votre existence, elle vient d'un autre. Elle ne vient pas de vous. Alors, elle vient de qui? Vos parents? Non, pas du tout. À qui? Des astres? Ah non, pas du tout. Votre être ne peut provenir que d'un être absolu qui, lui-même, ne dépend pas d'un autre. Or, ne pas dépendre d'un autre dans l'ordre de l'être, c'est ce qu'on appelle l'être premier. Et c'est ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Ajoutez toujours, hein, c'est ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Le mot Dieu, ce n'est pas le philosophe qui l'a inventé. Il provient des traditions religieuses. C'est très, très important. Parce qu'autrement, on dit preuve de l'existence de Dieu. Non. Recherche d'un absolu dans l'ordre de l'être. Et une fois qu'on voit que celui-ci existe, on peut dire celui-là existe et c'est celui que nous appelons Dieu. Or, cela, ce n'est pas le point de vue de saint Thomas ici, or cela ne peut se dire de Dieu que nous déclarons cause efficiente première. Puisque Dieu est cause efficiente première, on peut le dire grâce à l'article premier. C'est pour ça que cet article 4 repose sur l'article premier, vous voyez. C'est une conclusion d'une conclusion. Or, Dieu est cause efficiente de tout être. Toutes les réalités en dehors de lui dépendent de lui. Si Dieu est cause efficiente dans l'ordre de l'être, il est impossible qu'en lui, autre soit l'acte d'être, autre l'essence. Parce qu'il serait dépendant, et donc il ne serait pas cause efficiente. Qui dit cause efficiente dit qu'on est premier dans l'ordre de l'être. Si on est premier dans l'ordre de l'être, on ne dépend pas d'un autre dans l'ordre de l'être. J'espère que vous voyez un petit peu mieux cette argumentation. Elle est très forte, mais elle dépend de l'article premier. Il ne faut pas l'isoler, elle dépend de l'article premier. Dans l'article premier, j'ai montré que Dieu est cause première, cause efficient de toutes les réalités, si Dieu est cause efficient de toutes les réalités, nécessairement en Dieu, il ne peut pas y avoir de distinction entre son essence et son existence. Voilà ce qu'il faut comprendre. On va